Ρωσίο εν λας μόνος Ρωσίο αγκουαδάς δαλ σιέλο τιέρα μία η σόλα λα ειν μένσα μαρέα λας έστρεγιας όλες νο δέχες σε διέλο αλάρμο tanto te amo lo que fue fue para siempre lo que queda son las raíces que se asoman transparentes tus flores y dan sus colores. Asoman transparentes tus flores y dan sus colores. Los labios del sueño olvido de palabras, los dedos del viento. Soy el árbol del que eres sol. Rocío en las manos, Rocío, aguadas del cielo, tierra mía y sol. La inmensa marea, las estrellas soles, no dejes sediento al árbol que tanto te ama. Lo que fue, fue para siempre, lo que queda son las raíces, no dejes sediento al árbol que tanto te ama.
Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître, ni publicité, ni nationalisme de la Fédération anarchiste. Notre invité de Flemmardise et Réveille-moi ne trouble pas ma sieste, une émission un peu exceptionnelle, hors série entre guillemets. Notre invité est Julien Brancillon et les Harris, tout à l'heure le concert que vous aurez en différé. Julien est en direct et il découvre notre indicatif qui est Angélique Ionatos, qui chante Rocío, un poème de Frida Kahlo. Julien, je vais te présenter 30 secondes. Tu es psychologue à l'hôpital de jour d'Antony, de la fondation L'Élan Retrouvé. Et tu es rédacteur en chef du journal Atypique Le Papotin et coordonateur des Harris, le groupe de musique expérimentale des jeunes de l'hôpital. Et là, je viens de lire un extrait de Olivier Brisson pour une psychiatrie indisciplinée aux éditions La Fabrique qui est paru il y a très peu de temps, il y a quelques mois, en 2023. Un excellent livre que je vous recommande. Julien, bonjour. Je t'entends mal, attends, j'ai oublié de te mettre le micro. Bonjour Julien.
Bonjour Florence.
Ah, ça y est, là, je t'entends très bien.
J'ai plus de retour, mais c'est pas grave. Bon, je t'entends quand même.
Tu m'entends quand même, tu as plus de retour. Bon, bah. Donc, nous allons diffuser tout à l'heure le concert des Harris qui a eu lieu au Théâtre Berthelot de Montreuil dans le cadre de Sonic Protest. C'était quand déjà ? Il n'y a pas longtemps.
Le 21 avril.
Le 21 avril 2023.
Le festival a eu lieu le 21 mars. Le festival a eu lieu du 14 mars jusqu'au 2 avril, quelque chose comme ça.
Alors, je rajoute les derniers mots que dit ce livre pour te présenter. C'est que tu diffuses, les Harrys jouent des musiques qui expriment avec le moins d'artifice une certaine vérité vivante du sujet, le sujet étant la personne. Ce que dit Olivier Brisson pour une psychiatrie indisciplinée, ça me plaît bien cette façon. Voilà, maintenant je te laisse la parole pour expliquer à l'auditeur qui n'était pas dans cette merveilleuse soirée de Montreuil au théâtre Berthelot pour expliquer qui sont les Harrys. Et tu es à Radio Tisto sur Radio Libertaire, mais malheureusement en ce moment il n'y a personne pour faire le relais puisque c'est une émission en direct.
Je vais essayer d'expliquer tout ça.
Voilà, te laisse la parole, je me tais.
En fait, je suis très très content de présenter les Harrys ici, puisque c'est exactement ici, dans ce studio, précisément autour de cette table, qui sont nés. Les Harrys, c'est un groupe de l'hôpital de Jour d'Antony où je travaille, et on s'était réunis à l'initiative de Sonic Protest pour une semaine de résidence musicale avec Alan Curtis, donc un musicien argentin qui fait beaucoup de projets musicaux, mais qui a surtout fait un groupe qui s'appelle toujours, parce qu'ils ils se sont reformés, Reynolds, un groupe avec un batteur trisomique qui est le leader charismatique de ce groupe. Et donc on s'est réunis en 2013 pour une résidence à la Gaîté Lyrique avec ce musicien, et on est venu parler d'un concert qu'on allait faire au même mois, février 2013, dans une émission de Radio Libertaire, Les Oreilles Libres.
Christophe et puis je sais plus sa copine, au secours, excusez-moi, je sais plus comment elle s'appelle.
Et donc c'est vraiment là que les jeunes de l'hôpital Jour d'Antony, qui sont des jeunes accueillis à la semaine dans cet endroit en banlieue, ont vraiment pris le contrôle de l'émission. C'est eux qui ont mené et donné la couleur à cette émission. Et donc, en sortant de là, vu qu'on était présent pour annoncer un concert, on s'est dit, mais en plus d'un concert, il faudrait carrément qu'on demande un créneau à Radio Libertaire, ce qu'on a fait peu de temps après. Et en octobre 2013, on a démarré une émission qui s'appelle Radio Tisto, qui est toujours active, mais donc beaucoup moins présente sur les ondes de Radio Libertaire, puisque on a une histoire. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais on a rapidement été plus ou moins contraint de d'émettre en dehors du studio de Radio Libertaire. Donc on fait ça maintenant depuis l'hôpital de jour, notre émission. Et pour pouvoir émettre sur la FM, il faut que quelqu'un soit présent à la radio pour basculer le signal qu'on envoie via Internet. Et on ne trouve plus cette personne.
Ah oui, moi c'est ce que je fais parfois avec Radio Cartable. Alors pour la petite histoire, quand tu as commencé Radio Tisto, c'est à ce moment-là que moi, mon émission Des cailloux dans l'engrenage, il n'y avait pas encore Flemmardis, ça a été une idée du secrétariat un an après, qui m'a dit, mais fais le mercredi qui reste, qui est le premier mercredi, allez, fais une émission, parce que toi, tu faisais le deuxième et le quatrième, tu venais de commencer, et j'ai dit, j'aimerais bien un créneau le mercredi après-midi. Parfait, tu feras le premier et le troisième, tu feras le troisième mercredi pour Des cailloux dans l'engrenage, et puis le cinquième si tu veux, parce qu'il n'y a personne, et le premier, donc on a fait Flemmardis. Donc nous avons commencé ensemble, moi, en décembre 2013.
C'était la même époque, et c'était il y a 10 ans.
Tu parles plus devant le micro.
Ah si, j'ai pas bougé.
Ah bon, alors
bougé.
C'est mon casque qui déraille. Vas-y.
C'était la même époque
Ouais,
et c'était
ouais.
donc il y a 10 ans. Et c'était aussi l'objet donc de, enfin la raison de ce concert à Sonic Protest, c'était de fêter les 10 ans d'Harry's. Voilà donc vous écouterez le morceau. Le groupe a pas mal évolué. Il a commencé avec si c'est une de nos particularités à l'hôpital de jour, c'est que on accueille des adolescents et jeunes adultes entre 15 et 25 ans. Et ils sont dits autistes ou avec des difficultés apparentées. Et donc, au bout d'un moment, ils nous quittent, ils partent. Donc, on a créé une association qui permet de garder un lien. Mais tous les membres des Harry's qui sont partis loin, sont partis dans le sud de la France ou sur la côte atlantique. Donc, du coup, on a pas tout pu garder du lien avec tout le monde. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli pour pas s'endormir sur la même composition de groupe. C'est plutôt un collectif qu'un groupe d'ailleurs. On a accueilli plus de monde. Donc actuellement, il y a une dizaine de membres dans les Harry's qui étaient donc présents au concert du 21 mars. C'est un groupe qui joue une musique plutôt de recherche, une musique expérimentale, une musique intuitive où il n'y a pas besoin de savoir, de connaître la musique. Il n'y a pas non plus des critères à respecter. Il n'y a pas une orthodoxie de cette musique, ce qui est bien pratique quand on joue avec des jeunes gens qui parfois n'utilisent pas la parole ou ont des façons très atypiques de s'exprimer. Pour l'histoire entre la musique, parce que on va écouter un concert, mais c'est aussi une émission de radio. Donc on a commencé en étant les deux. C'est pour ça qu'on a deux noms. À la fois, on est les Harry's et Radio Tisto, et souvent j'explique que il n'y a pas de différence. Tous les animateurs de l'émission Radio Tisto sont les musiciens du groupe Les Harry's. C'est strictement la même chose. Avec une particularité qui est assez atypique dans les groupes d'institutions, puisqu'on est, on est quand même issus de l'institution, c'est que nous, les encadrants professionnels, on ne joue pas, on n'est pas sur scène avec eux. On participe, donc on s'occupe de la technique musicale, qui est quand même une place qui donne une couleur artistique, qui vient vraiment équilibrer les choses. Forcément, quand on est derrière une table de mixage, les ingénieurs du son le savent bien, on va donner plus de poids à un instrument qu'à un autre, on va rajouter des effets, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait qui permettent de structurer un petit peu les improvisations, de rajouter une couleur aux improvisations. Mais on n'est pas, comme dans de nombreux groupes, musiciens actifs.
Mais tu joues quand même de la guitare parce que à Montreuil, il me semble me souvenir, à un moment, tu as joué de la
Alors,
guitare.
c'est vrai qu'on s'est autorisé. Alors, ça, c'est
Parce
intéressant.
que
C'est
tu
que.
étais derrière une table de mixage et puis à un moment, on t'a vu.
Bon, à un moment, j'ai pris un banjo et
Ah,
c'était
pardon,
vraiment.
hein, c'était un
C'est pas
banjo,
grave, ça y est, encore
toi, le
pas.
souvenir.
Et Franck de Sonic Protest, que j'ai pas encore cité, parce que c'est quand même avec lui qu'on fait ça depuis le début, Franck de Kengo, lui s'est mis derrière la batterie. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, qu'on n'avait jamais fait jusqu'ici. Donc c'est vraiment, on a attendu 10 ans avant de s'autoriser. De venir partager un morceau, parce qu'on est musicien nous-mêmes. Et voilà, et on a attendu 10 années avant de s'autoriser ce petit écart. Mais le projet reste très bien comme il est. Donc c'est avant tout un projet où ce sont ces ados et jeunes adultes atypiques qui font la musique, qui font le groupe.
Il n'y avait qu'une fille, dans mon souvenir, il n'y avait qu'une fille à Berthelot.
Oui, alors au départ, on nous reprochait beaucoup parce qu'il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles, ça s'explique aussi quand j'étais Quand je suis arrivé à l'hôpital Jean Antony, donc quand j'étais jeune professionnel, je suis arrivé, il y avait 20...
T'es pas très vieux encore, hein.
Bon. Ouais. J'ai une quarantaine d'années, pour ceux qui se demanderaient. Et donc, j'avais à peu près 25 ans quand je suis arrivé. Il y a toujours à peu près 25 patients. Alors on dit patients. On dit les jeunes. Dans notre jargon, on dit les jeunes pour éviter le mot qu'on trouve un peu lourd de patients. Il y avait 25 jeunes accueillis. Et sur les 25, il y avait 22, 20, 20, 21 garçons, je crois, et 4 filles. C'est beaucoup comme ça dans l'autisme.
C'est surtout les garçons qui sont autistes.
Oui, il y a une prévalence plus importante chez les garçons, qui est bon, sans doute, qui peut avoir des explications un petit peu. Alors c'est controversé. Je sais que c'est un sujet un petit peu tendu, mais voilà, il y a probablement des explications du côté génétique, mais aussi beaucoup plus de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que quand même il y a aussi on diagnostique peu les filles, étant donné qu'on met une pression peut-être plus importante sur les filles, qui fait que elles ont plus tendance à masquer les difficultés rencontrées, et donc elles passent d'une certaine façon en dessous des radars.
Mais c'est facile de masquer ces difficultés à ce degré-là, je veux dire.
Alors oui, c'est vrai que ça s'applique un peu moins pour parce que dans les bon, on rentre dans des sujets un peu complexes, dans des explications un peu complexes, mais ça s'appliquerait un peu moins pour un endroit comme un hôpital de jour où les personnes accueillies ont des difficultés importantes. Mais là, quand on parle des statistiques, on parle de l'autisme en général, et l'autisme en général, on a apporté cette explication au phénomène du fait qu'il y a une prévalence plus forte chez les garçons. Après, en vérité, il faut être honnête, on ne sait pas bien exactement pourquoi.
On ne sait pas très bien ce que c'est que l'autisme exactement, ou on le sait.
De façon pragmatique, on sait le décrire, on sait, ouais. Mais d'où il vient, non. Non, ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui...
Et tu peux le décrire en trois mots, ça, je te demande la lune là, mais... Pour les auditeurs qui n'en ont jamais vu, parce qu'on n'en voit pas tous les coins de rue, on n'entend pas les Harris.
Jamais vu, ça commence à devenir difficile, d'autant plus que la définition, justement, s'est beaucoup élargie. Elle s'est élargie autour d'un consensus, mais beaucoup de gens pourraient se retrouver là-dedans. Ce sont avant tout des difficultés de communication. Et voilà, c'est quand même le critère principal.
Bah alors là, il y a 80% de la population qui est autiste. Oui, non, j'exagère là. Mais...
Ce sont des difficultés de communication très importantes, en tout cas importantes, et avec des besoins aussi certains besoins de repérage et une façon de voir le monde un peu... à travers une façon de catégoriser le monde qui est un peu différente. Mais en vérité, voilà, moi je ne suis pas un adepte des définitions de diagnostics, nous on ne travaille pas avec ça. Les personnes qui arrivent là, ils ont eu à un moment de leur parcours un diagnostic, et pas forcément un diagnostic d'autisme, hein, on précise bien, je l'ai dit au début, hein. C'est l'autisme et les troubles apparentés. Et donc, nous, voilà, on travaille avec les personnes qui sont avec nous en accueillant une différence et sans se poser la question du diagnostic qui elle, est posée dans d'autres endroits et souvent très en amont de ces jeunes gens qui arrivent chez nous à l'âge de 15 ans, ou même des fois un peu plus tard.
Ils étaient à l'école
Non, la plupart ont été rejetés de l'école. Ils sont pas tenus à l'école. On le voit d'ailleurs dans les interviews de Papotin, du journal Le Papotin, dont je suis le rédacteur en chef aujourd'hui, sont maintenant assez populaires parce qu'elles sont montrées sur la télévision nationale. Et ce sujet a été largement abordé par les journalistes eux-mêmes, donc les journalistes qui sont les jeunes, hein, dans Le Papotin, ceux qui font le journal, ceux qui sont les journalistes, sont ces jeunes gens atypiques. Et donc, ils abordent eux-mêmes le fait qu'ils ont été exclus de l'école, très jeunes souvent. très jeune.
Moi, j'ai découvert le papotin, comme je te le disais tout à l'heure, à la médiathèque de la Cité des Sciences, du temps où la directrice de la Cité de la Santé, Madame Guyenne, y travaillait et elle m'avait montré le papotin en disant « Tiens, Florence, ça peut t'intéresser, je suis sûre que ça t'intéresse, c'est vachement bien. » Donc voilà, quand j'étais loin de me douter que j'allais être à Radio Libertaire.
En fait, il y a un lien entre tout ça, hein, c'est pas par hasard que j'ai un lien avec les deux. Et ce lien, c'est l'hôpital de jour d'Antony. Et les gens qui ont donné une couleur, la couleur du travail dans ces lieux-là, il y a eu, je peux en citer trois, il y a eu le médecin directeur, Gilles Roland Manuel, et évidemment le créateur, le fondateur du Papotin, qui s'appelle Driss El-Khesri, et qui a travaillé beaucoup donc avec Moïse Assouline, qui est toujours psychiatre à l'hôpital de Jour d'Antony et président du Papotin. Donc ces personnes-là, dès les années 80, ont amené... ont favorisé la création de divers projets culturels dans ces lieux qui étaient des lieux de soins avant tout. Ils en ont souligné l'importance, ils ont aidé à leur développement. Et donc le papotin a été une des activités culturelles les plus représentées dans le monde des médias. Parce que très rapidement, la télé s'est intéressée. Ouais. Beaucoup de gens pensent que ce serait comme une nouveauté là, qu'on se retrouve
Parce que ça y a assez longtemps.
À la télévision.
Parle, ouais.
Mais en fait, quand les premières émissions récentes sont sorties à la télévision, Lina a immédiatement sorti sur les réseaux sociaux une archive de 91 du journal de FR3 qui faisait un reportage sur l'hôpital de jour d'Antony et le papotin. Ensuite, quelque part entre 92 et 94, je ne me souviens plus de la date exacte, Michel Field a fait un cercle de minuit entier sur le papotin. Donc voilà, il y a eu dès le départ de ce journal des liens très forts avec la télévision qui étaient impulsés avant tout par les rédacteurs, les personnes accueillies, patientes à l'hôpital le jour. Puisque c'était elle qui avait cette passion pour la télévision, qui avait là où dans leur développement les enfants dits normaux se faisaient leurs amis à l'école, eux étaient souvent exclus de ce lieu de socialisation qu'est l'école et ils trouvaient une forme de socialisation imaginaire dans la télévision. Leurs amis étaient les amis de la télévision. C'est comme ça qu'ils le disaient eux-mêmes à l'époque.
D'accord. Et il y a les Harris, quel lien avec le papotin c'est...
Après, c'est... En fait, ce journal et ces personnes-là, parce qu'il y a eu plusieurs projets culturels, hein, ce journal et ces personnes-là ont impulsé une dynamique culturelle dans l'institution et qui fait que... Bon, déjà, moi, je suis tombé amoureux de ce lieu dans lequel j'ai fait un stage en 2005. J'étais à la fac de psychologie. Les cours ne sont pas toujours passionnants à la fac de psychologie. Et donc, en découvrant... le terrain, en découvrant cette façon de travailler, cette façon d'aborder la culture, j'étais absolument passionné par ça et j'ai fait des pieds et des mains pour garder le lien avec eux, et c'est comme ça que j'ai pu finir par être embauché là-bas. Donc voilà, j'avais déjà une affinité avec cette façon de travailler. Et moi, quand je suis arrivé, alors au début, moi je faisais beaucoup de musique à l'époque quand j'ai commencé à faire... Je fais de la musique depuis mon adolescence. Mais à partir de 2007, j'ai monté un groupe. J'ai pu sortir des albums.
Comment
partir en tournée. Ce groupe s'appelle One Class.
Tu as amené un disque je ne le savais pas.
On passera un disque. On en a parlé plusieurs fois dans la Radio Libertaire.
Oui,
dans Epsilonia, notamment.
Oui.
Avec ce groupe, je partais en tournée régulièrement, ça marchait pas trop mal, ça restait assez confidentiel, mais on partait, on a fait quelques tournées, même certaines un peu à l'étranger. Et donc, je travaillais la semaine à Antony et le week-end, j'allais faire des tournées. À l'hôpital de jour d'Antony, on a aussi des vacances presque scolaires. On a une semaine quand les scolaires en ont deux. Et donc, sur toutes ces semaines de vacances scolaires, on partait en tournée. Donc, je quittais l'hôpital de jour. On allait faire une semaine de tournée, parfois deux, parfois à l'étranger. Et on rentrait de l'avion et on allait travailler à l'hôpital Jean Antony. Et j'avais toujours une espèce de réticence à partager ça. J'avais peur qu'on me reproche, que des fois, j'étais un peu fatigué. J'avais peur qu'on me reproche ce rythme-là. Et puis petit à petit, et notamment grâce à cette activité, et grâce à l'arrivée de Sonic Protest et de Franck Dekengo dans tout ça, mes collègues ont commencé à comprendre que j'avais deux cordes à mon arc et que j'osais pas trop en parler, et que je passais tous mes week-ends sur la route, en concert. Et donc, petit à petit, le lien s'est fait, et c'est aussi ça qui a favorisé, et là on m'a même encouragé à faire cette radio avec Radio Libertaire. On m'a même encouragé à faire ce groupe Les Harrys. On a pu assez rapidement, dès 2015, partir en tournée, sortir un disque, maintenir les émissions.
Un magnifique vinyle.
Oui, un vinyle.
Que je ne peux pas écouter parce que je n'ai pas de lecteur de vinyle.
Il faut le passer ici. Tu viens ici,
oui,
tu
c'est
mets
vrai.
Dans tes émissions. Ouais. Donc voilà l'aventure des Harrys, et le lien avec le Papotin, pour moi, il est très fort, il est très net. C'est que ces institutions développent des cultures, ça fait un peu bizarre de dire comme ça, mais des cultures de l'activité culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une habitude à proposer des projets culturels, et surtout, j'aime bien cette expression, à les prendre au sérieux. D'ailleurs, c'est une expression qu'utilise beaucoup Olivier Brisson. Donc,
alors, tu parles d'Olivier Brisson. Je vais lire un paragraphe. Tu vas me dire si ça, à mon avis, ça correspond aussi aux Harrys. Il dit dans le chapitre « L'art et les pratiques brutes », c'est page 176, que ce sont des auteurs indemnes de toute culture, entre guillemets, fascination qui pourrait s'interpréter comme une forme de jalousie pour le geste perçu comme pur, instinctif, libre donc, ou comme la nostalgie d'un temps en deçà de la culture. Il parle des gens qui sont fascinés par la culture de l'art, des pratiques brutes. Qu'est-ce que...
Alors, c'est intéressant de parler de ça. Mais ça, c'est la définition de Dubuffet, c'est ça?
Oui.
Oui, c'est la définition de Dubuffet. Et justement, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de tout ça, donc avec tout Sonic Protest et avec deux autres amis qui sont Olivier Brisson donc, et Mathieu Morin, on a, autour d'une personnalité, mais je vais pas brouiller les pistes avec trop de noms, mais je donne quand même son nom à Jean-Marie Massou, autour de ce personnage, qui est un ermite qui fait qui a plusieurs... une pratique culturelle, justement, une pratique artistique, qui vivait dans la forêt, qui enregistre des cassettes, qui chante, qui grave des pierres, pour le dire vraiment en quelques mots. Autour de lui, il y a une dynamique qui se crée, et autour de la publication de son travail sonore, et on crée un label. On crée un label parce qu'on se rend compte qu'il y a besoin... d'une structure pour pouvoir défendre ces pratiques musicales-là, qui pour nous tombent sous le sens parce qu'on passe beaucoup de temps dans les institutions, on travaille dans les institutions. C'est à ce moment-là que, c'est-à-dire ça vient d'Olivier Brisson qui écrit un texte qui nous a beaucoup porté parce qu'il a mis un mot sur quelque chose qu'on avait un peu du mal à définir, c'est-à-dire que nous, depuis des années, on était fans de musique à la marge, de musique expérimentale, de musique exploratrice, de musique bruitiste. En même temps, on fait nos études à côté, moi de psycho, Olivier Brisson de psychomotricité, et Mathieu Morin qui, lui, va rencontre dans les institutions des personnes qui sont accueillies là-bas. Et on voit bien que il y a une capacité à produire du sonore dans ces institutions qui est très intéressante et qui est très proche. Et en même temps, on sait que la catégorie de musique brute n'est pas reconnue. Parce qu'elle fonctionne pas très bien. Dubuffet, d'ailleurs, a essayé un peu de la lancer en soutenant, par exemple, quelqu'un comme Michel Dalmazo. Mais finalement, Il y a déjà une exploration qui est tellement importante en musique que ce terme de musique brute ne prend pas. Et nous, Olivier vient trouver ce terme de pratique brute de la musique pour mettre l'accent sur le fait que ces musiques fabriquées en institution ont une affinité avec d'autres musiques qu'on peut entendre, comme des salles à Paris, comme par exemple les Instants Chavirés, des musiques bruitistes.
Le Studio Campus, vous avez aussi...
Oui, bien sûr.
Studio Campus et Instants Chavirés.
Tous ces lieux où on peut créer des musiques bruitistes, des musiques différentes, et que Epsilonia diffuse le jeudi soir sur Radio Libertaire. Donc, ce mot-là vient fédérer, vient réunir, et en même temps qu'on crée le label, on voit que les gens s'identifient à ce mot. Les gens disent « Ah, moi, je m'intéresse aux pratiques brutes de la musique », et assez rapidement, on voit que les gens s'approprient ce mot. Des personnes, grâce à cette expression pratique brute de la musique, nous envoient des créations sonores, nous disent « Ah bah, je travaille avec un tel, il fait un truc super », ou alors « Mon fils fait de la musique de façon bricolée sur son ordinateur, sur son clavier, sur son... » Voilà, il y a une dynamique qui se crée autour de ça et qui nous a beaucoup, beaucoup porté, voilà, et dans lequel, évidemment, les Harris avaient toute leur place. Et c'était...
Le téléphone essaye de sonner, mais je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas de pause musicale avant le concert des Harris. Donc, je ne sais pas qui essaye de téléphoner, mais nous avons au moins un auditeur. Et j'espère qu'Olivier Brisson pourra écouter. Je l'informerai. Je vais répéter le titre de son livre que je... recommande, qui est absolument passionnant. Et
super
moi, je ne suis pas du tout de la partie. Donc, je suis très éloignée de ce monde.
Oui, il écrit justement, Olivier écrit un livre sur tout ça. Sur tout ça.
Ouais.
Et avec une particularité qu'on trouve peu, et je pense qu'il mérite d'être souligné, une particularité dans les livres qui traitent de psychiatrie, c'est que la psychiatrie est malmenée, le service public est malmené, l'hôpital est malmené, la psychiatrie n'échappe pas à toutes les difficultés rencontrées par tous ces endroits, tous ces services. Donc ça, on va pas c'est pas facile ce travail, surtout en ce moment, les conditions sont de plus en plus difficiles. Mais à travers tout ce qu'on a fait, on prend énormément de plaisir, nous. Donc, on n'aime pas non plus trop... Alors, je sais que c'est un équilibre difficile à trouver, mais justement, c'est pour ça qu'il l'a mis dans un livre. Et justement, il trouve cet équilibre-là entre la militance, le besoin de dire que l'hôpital est à l'abandon, que la psychiatrie est en difficulté, qu'elle manque de moyens, et le fait que quand même... à travers toutes ces pratiques culturelles, à travers tous ces moments de réunion, parce que, évidemment, faire de la musique, ça crée des concerts, ça crée des moments festifs, des colloques, des festivals, et ça nous permet de nous éclater, quoi. On se fait très plaisir à travers tout ça. Et à travers toutes ces rencontres qui ont été permises par les pratiques brutes de la musique, on se fait plaisir, il y a des réseaux qui se forment, qui se créent, il y a des affinités qui se retrouvent, et on se fait très plaisir, et c'était important pour lui, et on se retrouve complètement là-dedans, on chemine depuis des années, de mettre en avant le côté festif et le côté joyeux de tout ça, derrière évidemment des conditions de travail qui sont malgré tout difficiles.
On sent vraiment les deux à la fois, les deux faces, la souffrance et le bonheur de ce métier dans son bouquin, qui voilà. Est à la fois très dense et très facile à lire. Je répète, ça s'appelle « Pour une psychiatrie indisciplinée ». Olivier Brisson.
C'est sorti à la Fabrique.
À la Fabrique en 2023. Ça vaut 14 euros. Et franchement, c'est pas exagéré.
Il se trouve dans toutes les librairies.
Voilà. En tout cas, à Publico. Mmh. Je l'ai vu à Publico. Ouais. Je ne sais pas s'il y a encore, s'il a été vendu, mais il est à Publico. Oui, alors... il y avait aussi une autre émission dans le temps, mais qui a un peu disparu avec l'épidémie de Covid, qui était menée par Aude, qui travaillait dans un GEM, et toi aussi tu travailles...
Transbord, je crois.
Transbord, exactement, oui. Et toi, tu travailles aussi dans un GEM, je crois que vous vous connaissez.
Et un GEM qui a toujours... Alors c'est pareil, ils ont le même problème avec la diffusion, mais officiellement toujours une émission Radio Libertaire qui s'appelle Roue Libre, qui est le vendredi matin de 11h à 13h.
Les premiers, bah celle-là, je ne l'ai jamais écoutée.
Troisième.
Parce que Transbord, c'était le soir et...
Ah oui, bah, Transbord, c'était à 22h, je crois.
Le téléphone ressort, mais je ne peux pas répondre.
Peut-être c'est Aude.
Salut Olivier. Alors tu peux me parler des liens que tu as
Oui, bien sûr. Alors c'est une autre un autre lieu que j'ai rencontré à la même époque. J'étais étudiant en maîtrise de psychologie. Et juste avant de faire un stage à l'hôpital Jour d'Antony, j'avais fait un stage dans un CHRS qui s'appelait Espérance Paris.
CHRS.
Ah oui, pardon, les sigles en psychiatrie et dans le social. Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Voilà. Ce sont des centres d'hébergement. Alors, il était très atypique, ce CHRS, c'est-à-dire qu'il existe des CHRS pour les personnes vivant à la rue. Et qui ont une organisation très différente de celui dont je vais parler. Donc c'était un tout petit CHRS qui s'occupait de reloger des personnes sortant de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Et c'était donc en 2005, et c'est aussi l'année où il y a eu la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances. Et c'est une loi qui a permis, ouvert la possibilité, et financé d'ailleurs aussi, des lieux qu'on appelle aujourd'hui les groupes d'entraide mutuelle.
D'où GEM, voilà.
Qui ont la particularité d'être des lieux qu'on organisait autour d'une association d'usagers. C'est-à-dire que les personnes qui, à un moment de leur parcours, ont rencontré la psychiatrie, sont dans ce lieu-là non plus des patients, c'est assez important quand même, mais des adhérents de leur propre association où ils siègent au conseil d'administration. On est venu en parler quelquefois à Radio Libertaire, mais donc avec cette particularité une certaine idée d'autogestion. Alors après, il y a un modèle un petit peu plus complexe qui serait peut-être un peu technique à discuter, mais donc voilà, les groupes d'entraide mutuelle sont donc des lieux qui reçoivent une subvention pour embaucher deux animateurs à mi-temps. Ça varie hein, selon les lieux, mais à peu près deux animateurs à mi-temps et faire fonctionner ce lieu avec l'aide de ces animateurs et surtout l'aide d'un conseil d'administration qui gère le lieu et qui est composé majoritairement de personnes qui ont eu un parcours en psy à un moment de leur vie. Donc ce sont des lieux assez vivants. On peut dire aussi, parce qu'il ne faut pas perdre de vue la complexité de la chose, on peut dire aussi que ce sont des lieux assez pauvres. C'est financé par des forfaits, ça s'était jamais vu avant. Enfin, il faut jamais dire jamais, parce que si ça se trouve, je me trompe. Mais en tout cas, ça c'était. Moi, à ma connaissance, tout le monde était très surpris au moment où c'est sorti. C'est-à-dire que le gouvernement proposait une subvention à l'époque, c'était 75 000 euros au début. Et tout le monde pouvait avoir les associations pouvaient avoir ces 75 000 euros, qu'elles soient, par exemple, en région parisienne ou qu'elles soient en province. Et en région parisienne, avoir un local. Pour un lieu comme ça, et dedans il faut payer son loyer avec les 75 000 euros. Donc avoir un local, ça prend quasiment la moitié de la subvention dans Paris Intramuros.
Vous étiez à Belleville.
Donc entre un GEM Paris Intramuros et un GEM en province, qui d'ailleurs parfois a beaucoup plus de facilité à se faire prêter un local par la mairie contre une somme symbolique, il y a des fonctionnements très très disparates, et donc voilà, donc pour certains c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et en plus de ça, animer un conseil d'administration, faire vivre une association, avoir une comptabilité d'association, ça n'est pas toujours quelque chose de facile. Et voilà, et ce sont des lieux qui sont pas toujours faciles à naviguer. Voilà. Mais où il se passe beaucoup de belles choses et il y a énormément de radios donc, qui sont issues de GEM. Il y a des collectifs qui organisent des semaines qui s'appellent les semaines de la folie ordinaire. Pareil, c'est quelque chose dont on est venu parler plusieurs fois à l'antenne de Radio
Liberté. C'est en rapport avec les contes de la folie ordinaire ?
Non, ça, c'est une petite, c'est un petit clin d'œil, je pense, évidemment. Hein, mais c'est... non, c'est un collectif de militants pour la psychothérapie institutionnelle, le collectif Arto. À Reims.
Antonin, oui, Antonin pour Arto. Les intimes.
Qui a décidé de lancer... en fait, il y avait ce truc très officiel qui s'appelle les semaines d'information de la santé mentale, qui sont des semaines à l'initiation du gouvernement et des ministères qui appellent à programmer, qui appellent toutes les personnes, toutes les institutions et les personnes concernées par les questions de la santé mentale à programmer pendant 2 semaines des événements. Et avec le côté très officiel, ça avait un aspect, ça existe toujours, un aspect un peu plan-plan parfois. Et donc ce collectif à Reims a décidé de créer une alternative à ces semaines-là et les a baptisées les semaines de la folie ordinaire.
Il se passe quelque chose de temps en temps à la Parole Errante, à Montreuil.
Ils organisent à la Parole Errante et ils organisent aussi un peu partout. Donc à la fois, il y a des temps très collectifs qui sont à la Parole Errante et en même temps, chacune des structures qui adhèrent à la façon de voir à la philosophie de ces semaines de la folie ordinaire peut proposer un événement dans ses locaux ou chez ses partenaires. Enfin, voilà,
ils ont tous un esprit libertaire quand même.
Bien sûr, complètement. C'est très lié à la psychothérapie institutionnelle et puis à la question de l'accueil, la question de l'autogestion et tout ça, bien sûr. C'est au travail dans toutes ces choses-là, dans tous ces milieux-là.
Et toi, pour en revenir à Anthony, vous êtes assez libre dans votre gestion, dans votre façon de voir les choses. Vous avez eu des conflits, des bâtons dans les roues, ou vous avez été, comme pour les Harris, soutenu et encouragé?
Non, il y a une bonne équipe quand même là-bas. Il y a vraiment une bonne équipe. Hein. Parce que, d'ailleurs, finalement, il n'y a pas de différence entre les Harris et tout à l'heure, tout ce que j'ai décrit sur la culture du lieu, le fait qu'il y a une habitude à soutenir, à prendre au sérieux les créations culturelles, à prendre au sérieux les productions, le fait d'aller à l'extérieur, tout ça, ça fait partie de l'ADN un peu de
l'ADN, l'acide désoxyribole nucléique, tu sais que j'aime pas beaucoup ça.
C'est pas
la substance,
sens,
le fondement, le...
C'est pas exact parce que les institutions, non, l'ADN, c'est ce qu'on a depuis le tout début. Non, tu fais bien de relever la... tu fais bien de relever la référence biologique, parce que du coup je me rends compte qu'en fait ça s'applique pas, l'institution n'est pas née comme ça, ce sont des habitudes et des cultures qui se travaillent et c'est de l'ordre de l'acquis, ça n'est pas de l'ordre de l'inné. Donc c'était juste pour dire, j'ai voulu utiliser cette expression pour souligner le fait que ça fait tellement longtemps que l'hôpital de jour d'Antony est habitué à soutenir la création, à veiller à ce que la qualité de ses accompagnements, tout ça, que à la fin on finit à avoir l'impression que c'était de l'inné, mais non, ça n'est pas
d'autant l'inné. Plus que depuis l'épigénétique, l'inné et l'acquis en ont pris un sacré coup sur la tronche.
On travaille beaucoup avec des généticiens à l'hôpital de jour, et ce sont les premiers à nous dire que la génétique n'est pas une science aussi dure qu'on
Mais exactement,
voudrait le penser.
Et c'est une façon de... Enfin, c'est une mode, ce mot ADN, ça fait partie des mots à la mode dans...
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On est... Mais nous-mêmes, on emploie des mots comme ça parce qu'on est pris par l'entourage.
Bah, je ferai attention à ma façon d'employer.
Excuse-moi, mais à chaque fois que je coupe toujours en disant acide désoxyribonucléique, quel rapport et...
ouais.
Non, bah... bah, du coup, là, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Voilà, donc, deux univers assez différents malgré tout, mais qui se rencontrent assez souvent. Donc, l'hôpital de jour d'Anthony, d'une part. Voilà, avec des... C'est beaucoup plus structuré, des patients. C'est un hôpital de jour, on est soumis aux règles... des hôpitaux, on est des soignants, et de l'autre côté, une association où le conseil d'administration est partagé de façon horizontale avec des personnes qui ont un parcours en psychiatrie. Voilà, donc...
Ah oui, alors j'ai retrouvé mes questions, il y en avait deux. Est-ce qu'il y a un lien entre Anthony et le GEM de Belleville et est-ce qu'il y a d'autres lieux comme celui d'Anthony dans le même esprit en France, en Navarre et ailleurs?
Oui, bien sûr qu'il y a d'autres lieux. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui se font. On reçoit souvent rien qu'au titre du label, on reçoit souvent des propositions de disques, voilà, pour des éditions, et on découvre toujours des nouvelles choses. Il y a des très belles choses qui se font. Qui est-ce qu'on peut citer? On peut citer les alternances Bourg-la-Reine, c'est pas très loin, c'est vrai. Et il y a une personne qui était en commun d'ailleurs avec l'hôpital le jour d'Anthony. Gilles Roland Emmanuel, pour ne pas le citer. Et ils ont monté un groupe qui s'appelle Astéréotypie et que maintenant on entend absolument partout. Et c'est intéressant parce que le groupe, du coup, a quitté l'institution, mais
parce qu'il était fâché.
Non, pas du tout, vraiment pas même. Il a quitté l'institution parce que, justement, avec cette histoire d'âge, les membres, ça fait plus de 10 ans qu'ils existent aussi, Astéréotypie. Et donc, avec cette histoire d'âge, les membres ont grandi et ils font plus partie de l'institution, donc ils en sont sortis. Et puis, de toute façon, ils ont tellement de succès que ils ont plus besoin du soutien institutionnel. Donc voilà. Après, il y a eu à une époque Vivian Grisini qui menait un travail remarquable. Il y a des tas de choses qui se font partout. Hein. Il faut pas s'imaginer que comme si on était exceptionnel. Et bon, ça c'est plutôt pour le côté le réseau papotin, hôpital de jour d'Anthony. Pour du côté des GEM et de la psychiatrie adulte.
Groupe d'entraide mutuelle,
Les groupes d'entraide mutuelle. Il y a aussi le travail remarquable de l'Adamant.
J'ai vu le film et j'avais déjà vu le lieu avant. Ah, c'est incroyable.
Nicolas Philibert, voilà, ouais, qui sort
incroyable.
Un film.
Qui est sorti.
Qui est sorti, qui a une très très belle reconnaissance.
Qui marche bien à Montreuil.
Voilà, donc c'est absolument magnifique ce qu'ils font là-bas.
Ah, c'est extraordinaire. Et quand on y va sans être au courant pour suivre une rencontre littéraire comme ils font de temps en temps, on est assez stupéfait du lieu, de la force à la fois affective et intellectuelle qui se dégage, et puis culturelle, puisqu'il y a un type qui joue de la guitare dans un coin. Je recommande film pour
qui
ceux qui ne connaissent pas.
Oui,
et qui c'était passionnant. Allez-y voir l'Adamant à Montreuil ou ailleurs, de Nicolas Philibert. Le téléphone ressonne.
Il y a plein de choses qui se font en Belgique aussi. Ouais. Il y a la S Grand Atelier. Il y a avec le groupe Les Schoolers. Il y a le Wild Classical Music Ensemble. Il y a Chevalier Surprise aussi. Un super groupe. Tout ça, ça joue au mois de juin, le 17 juin à la station Gare des Mines.
Alors, le 17 juin à la station Gare des Mines. Et où est-ce que c'est, cette station de Gare des Mines?
C'est à Aubervilliers.
Aubervilliers,
Porte d'Aubervilliers, mais
ça
techniquement, c'est domicilié
fier,
dans, à Paris 18e. Mais bon, c'est de l'autre côté du périph' quand même, il faut...
De l'autre côté du périphérique.
Donc en fait, ça n'est pas Aubervilliers, pardon. C'est juste que c'est...
Il y a Pantin, Aubervilliers,
il faut passer la porte d'Aubervilliers. Et il faut passer le périph'.
Il y a la tour périphérique.
Et il y a ce lieu qui s'appelle la station Gare des Mines. On trouve facilement l'adresse hein, sur Internet. Et c'est officiellement, c'est dans le 18e.
Ah d'accord, bon. Je suis en train de noter l'adresse et ça sera le 17 juin.
C'est le 17 juin, c'est ça. Dans le cadre du Festival du Futur Composé.
Festival du Futur Composé.
Il y a aussi Rebecca Warrior qui joue et d'autres groupes, mais j'ai...
Bon, bah, il faudra que l'on mette le lien sur l'émission.
Oui.
Je mettrai un lien... Sur le site de l'émission, tu me diras quel lien je pourrais mettre, si tu connais par cœur un lien.
Festival de... Ah non, je crois qu'ils ont des...
Bon, ben, c'est pas grave, ouais, on cherchera, parce que là, c'est difficile, le téléphone ressonne.
Ils ont des problèmes de site internet, le futur composé, mais ils sont actifs sur les réseaux sociaux, donc on peut les retrouver facilement.
Sinon... Bon, le concert des Harrys du mois de mars, hein, c'est ça, au théâtre Berthelot de Montreuil.
Ah oui, et les Harrys seront en concert à nouveau.
Ah, bah alors.
Le 2 juillet au Macval, dans le parc du Macval.
Ah oui, c'est à Vitry et c'est le musée.
C'est le musée national d'art contemporain du Val-de-Marne. Et voilà. Et donc, il y aura une émission de radio le mardi, qui sera le mardi 27
juin.
Un papotin en public le 28 juin depuis le Macval, au Macval, avec l'artiste. On va interviewer l'artiste Marie Lozier. Et après le concert le dimanche 2 juillet. Dans le parc du Macval.
Ah, très bien, concert. Eh bien, merci de toutes ces informations. Je te propose, est-ce que tu as encore quelque chose d'important à dire ?
Non, je ne m'attendais pas à déplier tout ça en introduction.
Bah écoute, je t'avais donné une heure, ouais, tu vois, parce que le concert dure 51 minutes et je propose aux auditeurs qui essayent d'appeler frénétiquement pendant que je ne peux pas répondre parce que c'est dans le studio. Enfin, on est une petite radio.
On est que deux.
Radio. Et puis en plus, dans deux pièces différentes. Sur Radio Libertaire, là, c'est l'émission Flemmardise et Réveille-moi ne trouble pas ma sieste avec Julien Brancillon en direct qui nous a présenté le concert des Harrys et attendez au téléphone, je vais le diffuser. Il y en a pour 21 minutes tout de suite. C'est ça ? Non, c'est... Oui, si, c'est ça.
Bonjour à toutes et à tous.
Je n'ai pas de retour.
Et bienvenue dans Wild Side, sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Aujourd'hui, émission un peu particulière. Alors, attendez, je fais mes réglages en même temps. Émission un peu particulière, puisque nous recevons aujourd'hui non pas Clément et Maureen comme d'habitude, mais ma grand-mère, Mamie. Bonjour Mamie.
Bonjour Rémi.
C'est ta première radio ?
Ah oui, ça. Mais mieux vaut tard que jamais. Hein.
Ah complètement. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous.
Ça, c'est gentil.
On va passer un moment à parler de musique. Alors dites...
Bon, nous avons un petit souci. Il y a Julia. Ah,
ça y est, c'est bon.
Alors, pourquoi ça fonctionne pas ? Je n'entends pas.
J'entends Sally. Qu'est-ce qui se passe ? Sally, là.
Et pourquoi on n'entend pas ici ?
Sally, c'est à fond.
Alors.
Allez, Bertrand Castagnon, où tu viens, enfin. Allez. Allez, Bertrand Castagnon.
Allô ? Eh bien, évidemment, ça a raccroché.
Allez, Bertrand Castagnon, tu viens, enfin.
Attends, 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 attends
Merci. j'avance. J'avance vers le temps, j'avance vers le positif, l'inflation du pouvoir d'achat ne me fait pas peur. Projet d'autonomie, je veux savoir gérer mon budget tout seul, et je suis capable de savoir gérer mon budget tout seul. J'ai envie de pouvoir racheter mes ballons de peluche tout seul avec mon argent. Je veux pouvoir racheter mes ballons de peluche tout seul avec mon argent. Et je veux savoir tout gérer. Je veux savoir tout gérer mon budget. Et puis de toute façon, la vie elle est belle. La vie elle est belle, tant du moment qu'on quitte Calais, et qu'on revient à Paris, la vie elle est belle. La vie elle est belle, parce que contrairement à moi, la vie à Calais elle est chère, elle est très chère la vie à Calais, elle est horriblement chère, alors qu'à Paris, la vie elle est simple, elle est pas chère, elle est simple. La vie, elle est pas chère, elle est simple, et la vie, elle est belle à Paris. Moi, j'ai pas peur de voyager. Moi, le voyage jusqu'en Nouvelle-Zélande, le voyage jusqu'en Argentine, le voyage jusqu'au Canada, le voyage jusqu'en Chine, jusqu'au Japon, ça ne fait pas peur. J'ai pas peur d'aller en Chine, j'ai pas peur d'aller au Japon, j'ai pas peur d'aller en Australie. L'Australie me fait rêver, tous ces pays-là me font rêver, le voyage en lui-même me fait rêver, prendre l'avion me fait rêver. Trois nuits sur trois, dans la semaine, je rêve de prendre l'avion, je rêve de voir ces charmes de l'eau. Je rêve de pouvoir prendre l'avion à Roissy Charles de Gaulle. Et cet aéroport, il me fait rêver. Et la Guadeloupe, c'est comme un rêve. La Guadeloupe, on se croirait dans un rêve. On se croirait dans un rêve qui se réalise en Guadeloupe. Avec la chaleur tropicale qui s'invite. La chaleur et l'eau chaude. S'invite, on a l'impression d'être dans un rêve en Guadeloupe, c'est génial. Et parce que moi, je sais très bien que le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit n'est pas forcément toujours facile. Je sais bien que le monde dans lequel aujourd'hui on vit n'est pas forcément facile. Je sais très bien que je vis dans un monde où parfois les jeunes peuvent se moquer de moi. Mais moi j'ai pas peur de ça, moi j'ai pas peur. Et moi j'ai pas peur. La loi ne me fait pas peur. La loi ne me fait pas peur. Parce que moi. Ce qui me fait du bien, c'est que je rêve d'une jeune fille. Je rêve d'une jeune fille. à l'hôpital toujours et qui sont inscrits à l'hôpital toujours, je rêve pour tout l'idéal à l'hôpital toujours. Et ça serait la première, ça serait la première fille que je pourrais flirter depuis toute mon existence à l'hôpital toujours. Parce que moi, à l'hôpital Bonjour, et je rêverais de l'emmener avec moi à la piscine. Je rêverais de l'emmener un mercredi soir à la piscine. Je rêverais de l'emmener un vendredi soir à la piscine. Tout en respectant les codes sociaux, je passerais un moment fabuleux avec mon fille, tout en respectant les codes sociaux, les codes simples. Et bien, je pourrais passer un moment fabuleux avec une jeune fille ou un garçon. Moi d'ailleurs un garçon qui vous a très bien arrivé, qui est un garçon idéal pour moi, qui est un garçon idéal pour moi, l'hôpital et que je suis un petit ami anniversaire.
De mes sorties, voilà ça qui m'emballe.
J'ai besoin des radios Castor. Je vais dire, faites, j'ai des radios Castor. J'ai besoin, moi, j'ai des radios Castor. Castor, dégage. Tu vois. Julie Fossaner, nique ta mère. Julie Fossaner, c'est un connard, mon frère. Julie Fossaner, c'est un connard, ta mère. Dégage. Dégage, c'est bon. Ou je te défausse ta main. Dis-moi. Dégage, dis-moi. Ou je te défausse ta mère. C'est les armes. Je te défonce ta mère. Je te défonce ta mère. Je te fais défoncer ta mère. T'as entendu? Dégage. Dégage. Je suis là. Casse ta grosse pute. Compte. Un. Je te donne votre temps. Je te veux casse la main. Je te veux casse toi. Casse-moi. Thank you.
Vous écoutez le concert des Harrys en différé. C'était depuis le festival Sonic Protest en mars au Théâtre Berthelot à Montreuil. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité, ni nationalisme de la Fédération anarchiste. Et là, tout a été enregistré par Patrick Muller. On est encore en direct. Enfin, non, c'était en direct, mais là, nous sommes dans le studio de Radio Libertaire. Nous sommes le 3 mai 2023. C'est l'émission Flemmardise et Réveille-Maux, ne trouble pas ma sieste, qui a invité Julien.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci.
Radio Libertaire, le concert des Harrys. Radio Tisto et Flemmardise, réveille-moi, ne trouble pas ma sieste. Une collaboration entre les deux émissions.
Thank you. Merci, c'était Léa Arise. Ils fêtent leurs 10 ans avec Théo qui vient de rejoindre le groupe. Samy, Quentin, Jonathan, Isabelle, Jérôme, David, Balthazar, Étienne, accompagné avec Juliette, par Juliette, Adam, qu'on salue. Julien et moi, Franck. C'était les 10 ans, enfin voilà, c'est les 10 ans d'ailleurs. C'est pas... Il y a un album qui est en enregistrement en ce moment. Merci. Il va y avoir une petite pause et après il y a la Eugène Chabon qui va venir.
Voilà, c'est fini. Au revoir le théâtre Berthelot de Montreuil. Au revoir Léa Riz et Radio Tisto. Vous êtes encore pour un petit quart d'heure sur Flemmardise et Réveille-Maux, ne trouble pas ma sieste. Je vais rappeler ce que nous disait Julien, les prochains concerts des Harris, le 17 juin au Festival du Futur Composé, c'est un joli nom, Porte d'Aubervilliers dans le 18e. À la station Gare de Mines, j'ai l'impression que c'est entre les deux, entre les périphes et les boulevards extérieurs. C'est sur Paris, mais c'est de l'autre côté du boulevard extérieur. Le 17 juin, Festival du Futur Composé. Le 2 juillet, les Harris joueront au Parc du Macval. C'est le musée d'art contemporain de Vitry-sur-Seine, dans le 94. Il y aura trois jours. Le mardi 27 juin, ils vont passer à la radio. Je ne sais pas quelle radio. Le 28... Ça sera le Papotin en public, le mercredi 28 juin. Le 2 juillet, il y aura un concert des Harris. J'essaierai de... Julien est parti travailler. J'essaierai de mettre sur le site de Flemmardise tous les renseignements, le lien avec... avec le Papotin ou avec les Harris, enfin, je ne sais pas exactement, je demanderai à Julien. Et puis, puisque l'émission est terminée, et maintenant, place au Club Ferré, mais d'abord l'indicatif. Angélique Ionatos, au revoir.
Ρωσίο εν λας μόνος, Ρωσίο αγκουαδάς δαλ σιέλο, τιέρα μία η σόλα, λα ειν μένσα μαρέα, λας έστρεγιας όλες, νο δέχες σε διέλο, tanto te amo lo que fue fue para siempre lo que queda son las raíces que se asoman transparentes tus flores ya dan sus colores se asoman transparentes tus flores y dan sus colores los labios del sueño olvido de palabras los dedos del viento Soy el árbol del que eres sol. Rocío en las manos, Rocío, aguadas del cielo, tierra mía y sol. La inmensa marea, las estrellas soles, no dejes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre.
quedas son las raíces. No dejes sediento al árbol que tanto te ama.